BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, bienvenue, il est 9h30, vous êtes en direct sur BFM Business. On est ensemble pour une heure de débat et de controverse. Avec cette question ce matin, sommes-nous arrivés à la fin du quoi qu'il en coûte social? C'est la Cour des comptes qui alerte, qui tire la sonnette d'alerte. Après un nouveau dérapage des comptes sociaux, il va falloir plus de 10 milliards d'efforts par an pour redresser les comptes sociaux, et ce sur plusieurs années. Vieillissement, santé, dépendance, peut-on encore promettre de nouveaux droits sans dire qui paiera? Dans le même temps, Bercy missionne 4 économistes pour tenter de trouver des solutions avant le budget 2027. Alors, vrai travail de redressement ou préparation politique à des sacrifices à venir? Ce sera le deuxième débat ce matin. Et puis, nous parlerons aussi gel des allègements de charges qui crispe le patronat. On en a beaucoup parlé hier à Pacte PME. Faut-il sacrifier la compétitivité des PME et des TPE sur l'autel des économies budgétaires? Ce sera le troisième débat ce matin des experts. Et puis ce pari fou du quantique, Emmanuel Macron a promis 1 milliard d'investissements supplémentaires il y a quelques jours. Une note du Trésor indique que le quantique pourrait doper la croissance de 8%. Oui, 8%. Tenez-vous bien, dette sociale, compétitivité, technologie. La France cherche toujours la formule pour financer son modèle sans décrocher économiquement. Voilà pour le programme du jour. Il est 9h passé de 32 minutes pile. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Valérie Plagnol. Bonjour Valérie.
Bonjour Raphaël.
Présidente du Cercle des épargnants, à vos côtés Mathieu Plane. Bonjour Mathieu.
Bonjour Raphaël.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE et Stéphane Carcillo. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Responsable de la division revenu-travail à l'OCDE, professeur associé à Sciences Po. Bienvenue à tous les trois. On va parler gros sous, hein. Vos sous, vous, contribuables, à commencer par les comptes de la Sécu avec... C'est la Cour des comptes qui le dit dans un rapport publié hier, le risque d'une dette éternelle. La Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme sur les comptes sociaux et propose quelques pistes de redressement plutôt explosives. On va les dérouler ensemble. Je commence avec vous, Mathieu. D'abord, qu'est-ce qui dérive? On a 4 milliards de déficits supplémentaires qui s'annoncent, alors qu'on était déjà à près de 20 milliards. Hein.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors, ça n'avait pas été annoncé comme ça, mais le gouvernement avait déjà prévenu du surcoût budgétaire lié à la crise en Iran, du blocage du détroit. Ah,
c'est ça la cause, c'est la crise au Moyen-Orient qui pèse sur les comptes.
Il parlait au départ, c'était 6 milliards pour le budget global, hein, donc les finances publiques. Et là, on serait sur près de 4 milliards pour la Sécu.
Oui, alors que c'était 4 sur la dette portée par l'État et 2 milliards pour la Sécu, là on double.
Et certainement, voilà, les 6 sont un peu obsolètes, on serait peut-être plus à 8, certainement. Et on voit bien, il y a d'abord un effet croissance qui est plus faible que prévu. Alors en plus, c'est des estimations, parce que pour le moment, le gouvernement n'a pas revu tant que ça sa copie hein, sur la croissance. On reste à 0,9.
Oui, il va falloir à un moment, non?
Bah, le 0,7 semble un peu plus dans les cordes. C'est ce que dit le FMI hein, aussi dans son dernier rapport. Bon, la Commission européenne a 0,8, mais 0,9 est peut-être un peu haut vu le choc économique qu'on subit.
Qui, d'ailleurs, la guerre n'est pas finie. Hein.
D'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal avec le discours de Sébastien Lecornu, parce qu'il dit qu'en fait, ce conflit s'installe plus durablement et plus intense que prévu. Donc, bon, si on fait ces petits calculs, effectivement, la croissance pourrait être encore révisée à la baisse par rapport à ce que dit le gouvernement, ce qui veut dire qu'il y a moins de recettes sociales et fiscales en face, et donc des déficits qui pourraient être supérieurs. Et puis, il y a les effets d'indexation potentiels liés à l'inflation supplémentaire.
Évidemment sur minima sociaux.
Minima sociaux, alors qu'il arrive quand même beaucoup plus sur 2027. Ça va être un gros débat de 2027.
Ah oui. Hein,
c'est-à-dire qu'en fait, on a un effet de report.
Donc on n'est pas arrivé, c'est que le début. Hein.
Ah, c'est que le début. Et donc, ce n'est pas intégré sur 2027. Enfin, je pense que c'est intégré dans la trajectoire future que propose la Cour des comptes. Et puis, il y a ce fameux débat sur les exonérations de cotisations
oui, ça on
patronale
y viendra,
et leur
on
indexation.
Y viendra un peu plus tard.
Donc, je ne sais pas si le calcul de la Cour des comptes intègre justement le fait que le gouvernement veut faire un peu plus de 2 milliards d'économies en n'indexant pas le barème, je ne crois pas.
Non, pas encore.
Donc, voilà, donc il y a les 4 milliards, il y a aussi le fait qu'il y a...
Donc c'est moins de recettes et plus de dépenses, quoi.
C'est, voilà, exactement.
Si je résume,
et que,
dans une situation qui était déjà plutôt très très compliquée.
Sachant que, effectivement, il faut le rappeler, hein, c'est qu'on était, je crois, autour de 23 milliards sur 2025 de déficit sur ACQ, qu'on était censé passer en dessous des 20 milliards, mais qu'il y avait une reprise de l'État.
De 5 milliards
voilà,
de l'État.
Exactement, qui était quand même, en fait, il y avait des jeux de vases communicants. Hein, et donc, au fond, on voit bien qu'il y a un des gros angles morts, et, assez clairement, c'est comment on fait pour réduire le déficit de la Sécu, parce qu'aujourd'hui, il est quand même structurel, on va pas se mentir.
Pardon, ça veut dire qu'en réalité, on est à près de 30 milliards d'euros, on est d'accord, de déficit sur la sécurité sociale. Sans crise épidémique majeure, je veux dire, on n'est pas en plein Covid, Valérie Plagnol. Qu'est-ce qui explique ce niveau de déficit quasi historique?
Alors, on voit effectivement, c'est ce qui est intéressant dans le rapport de la Cour des comptes, qu'il y a un décalage d'un peu plus de 1% entre la croissance des dépenses et la croissance des recettes. Donc là, effectivement, c'est la dimension structurelle.
On creuse le déficit.
On creuse le déficit. S'ajoute effectivement, comme l'a dit Mathieu, les éléments conjoncturels où effectivement, on sera amené très certainement à revoir à la baisse la croissance et les perspectives de croissance qui, de toute façon, n'étaient pas très brillantes pour cette année.
Oui.
Donc tout ça combiné ajoute effectivement de choc après choc les problèmes que nous connaissons sur l'ensemble des financement de l'assurance sociale. J'ai le sentiment que, effectivement, mais je crois qu'on va en reparler, il y a vraiment un enjeu maintenant de remettre à plat, au regard d'une situation qui est celle, on le sait, du changement démographique.
Bah oui, du vieillissement de la population.
Et de nos populations en Europe, parce que c'est un sujet commun à beaucoup de pays, de retrouver effectivement un modèle qui soit beaucoup plus soutenable. Est-ce que ça passe par plus de cotisations, d'autres cotisations, plus moins de dépenses, d'autres répartitions, c'est bien ça l'enjeu.
En plus de cotisations, enfin c'est le travail, hein, vous êtes un grand spécialiste du travail, Stéphane Carcillo. En France, c'est le travail qui porte quasiment la totalité des cotisations sociales, du financement de notre modèle social. Est-ce qu'on peut en mettre encore davantage, une pelletée sur nos travailleurs?
Alors le gros sujet, c'est effectivement qu'on a aujourd'hui une double pression sur le système de financement. D'abord, on a un vieillissement démographique qui, comme vous l'avez expliqué, fait qu'on a des dépenses sociales qui augmentent plus vite que la croissance. Hein, on a des besoins qui augmentent et ça va pas s'arrêter. Hein. Donc ça, c'est clair que ce décalage, il est là pour durer. On a un deuxième problème, c'est que donc sur les dépenses, ça augmente vite. Et sur la croissance de l'économie, ça ralentit. Parce qu'en fait, on a des gains de productivité qui ralentissent.
Donc il y a un effet ciseau, quoi.
Or, si on finance sur les salaires, on finance aussi sur ce qui est tiré par la productivité. C'est-à-dire que les salaires, ils sont avant tout tirés par la productivité, et quand la productivité ralentit, les salaires ralentissent, ils vont pas aussi vite que la dépense sociale. Et donc, on se retrouve avec un gap de financement qui est là pour durer, et d'où la question, est-ce qu'on peut trouver d'autres sources de financement uniquement que le financement via les cotisations sociales, patronales et salariales. Et donc, c'est tout le débat sur la TVA sociale, la CSG, etc. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir élargir la base de financement de cette protection. Peut-être oui. D'ailleurs en clarifiant
on parle déjà beaucoup,
ce
ouais.
qui est strict, ce qui relève strictement du caractère assurantiel. Je m'assure contre l'assurance chômage, je m'assure contre des risques de santé, ou ce qui relève plus de la solidarité, toutes les politiques familiales, etc. Il faut peut-être faire un nouveau tri, un nouveau nettoyage de ce financement. Tout ce qui a un caractère un peu de solidarité devrait être financé sur une base très large de taxation, type CSG, où on taxe tous les revenus.
Oui.
Ce qui relève plus de l'aspect assurantiel en tant que salarié devrait être beaucoup plus simplement taxé par des contributions sociales, salariales ou patronales. Et donc là, je crois qu'on voit qu'il y a un nettoyage à faire et il faut repenser, je pense, le système. Mais même si on fait ça, même si on fait ça, ça n'exonère pas de repenser le niveau des dépenses. C'est-à-dire que il faut faire ça pour clarifier et trouver des nouvelles sources de financement. Mais la France, comme d'ailleurs ses voisins, hein, parce que c'est commun comme à l'Allemagne,
il y a un comité des sages effectivement à économique, 5 experts qui ont remis hier un rapport au chancelier Friedrich Merz, tirant exactement la même sonnette d'alarme, hein,
mais bien
qui
sûr.
Est que le vieillissement de la population, la baisse de la natalité et la baisse de l'immigration font que les dépenses sociales en Allemagne ne sont pas viables. À l'horizon 2040, les cotisations représenteraient 50% des revenus des actifs. J'ai trouvé ce chiffre, moi,
bien sûr.
Pardon, mais totalement dingue
mais
en réalité.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets un peu partout. On ne part pas tous du même point de départ. C'est ça le problème. C'est que la France a des déficits depuis très longtemps. Et donc, dans tous les pays qui sont soumis à la pression démographique et au ralentissement de la productivité et de la croissance, on va générer cet écart dans nos économies, notamment européennes, dans lesquelles le modèle social de protection sociale est en général, presque partout, quand même extrêmement étendu, où on couvre tous les risques, où on a un filet de sécurité qui est quand même assez important. On est confronté à ce challenge, et c'est sûr que le problème particulier de la France, c'est qu'on part déjà avec des déficits.
Bah oui.
En Allemagne, on projette les déficits, etc. En Allemagne, en France, on part avec des déficits. C'est un peu le sujet. Et donc, le problème, c'est pas tant le niveau des dépenses, c'est comment on va les financer et est-ce qu'on est capable de les financer. Il faut pas que ça génère des déficits parce que ce sont des dépenses courantes et que ces dépenses courantes ne doivent pas générer de déficits pour... On ne doit pas les faire payer par les générations futures.
C'est donc jouer sur les deux volets et recettes. Il faudra plus de recettes et réduire les dépenses.
Ce qui pose une question assez importante. C'est-à-dire que, oui, effectivement, modifier le financement de la Sécu avec des risques différents, hein, si c'est effectivement plutôt assurantiel ou pas, hein, donc contributif dans certains cas. On voit bien pour les retraites ou le chômage, hein, qui est une forme de salaire différé, c'est pas du tout la même chose si c'est un système plus universel qui doit être financé par un impôt plus large, quoi. Ça, c'est évident.
Oui.
Alors après, les transferts sont jamais très agréables, ça c'est sûr. Mais par contre,
ça fait toujours des gagnants et des perdants.
Un transfert change les modalités de financement, mais fait pas forcément des réductions de déficit.
Mais bien sûr.
Et donc, par exemple, une TVA sociale, hein, qui était dans le débat, si c'est une pure TVA sociale, c'est des transferts, normalement, qui sont neutres budgétairement.
Oui.
Là, la question que soulevait Stéphane est juste, c'est qu'en fait, on part d'un point de départ qui n'est pas à zéro. Et qui est déjà à moins 20, voire même un peu plus creusé. Donc, il faut déjà combler ce trou. Et quand vous regardez les projections, je sais qu'il y a un travail d'Hippolyte Albi qui vient de sortir un livre là-dessus, il montre que le simple effet purement démographique, lié à la dépense par âge, pour la santé, les retraites, etc., amène sur 10 ans à peu près 3 points de PIB de déficit supplémentaire.
Eh oui.
Parce que vous êtes plus nombreux à avoir plus de 80 ans et que la dépense de santé au-delà de 80 ans est 10 fois supérieure à celle de quelqu'un qui a 20 ans. Si vous rajoutez ça en plus des effets de progrès du côté de la santé, qui est quand même l'innovation, en fait, coûte cher. D'habitude, dans l'économie, l'innovation permet de faire des gains de productivité, de faire de la croissance, baisser les prix, etc.
Oui.
Là, l'innovation dans la santé... Plus vous permettez d'avoir une plus longue espérance de vie, mais plus ça coûte cher, plus les traitements sont coûteux. Plus les risques sanitaires mondiaux, c'est vrai qu'en fait on en parle assez peu, mais le vrai sujet c'est peut-être les retraites en soins, bien sûr, mais on parle assez peu, beaucoup moins je trouve, de la question de la santé, qui est en fait une espèce de bombe à retardement.
Avec des dépenses qui dérapent complètement aussi.
Et d'ailleurs, quand vous regardez la structure des déficits du système de sécurité sociale, je crois que 2/3 sont liés à la santé, hein, quand même, aujourd'hui.
Avec ce risque d'une dette perpétuelle, hein, c'est ce que dit la Cour des comptes, qui donne ce chiffre incroyable. La charge de la dette sociale, hein, portée par la CADES, c'est 250 euros par an pour un salarié qui touche 2000 euros brut. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin du SMIC. Est-ce qu'on peut continuer comme ça encore longtemps, Valérie Plagnol?
C'est vraiment compliqué dans la mesure où on voit bien que effectivement les modèles de nos voisins. Alors on a parlé de l'Allemagne. Moi j'ai regardé la Suisse, j'ai regardé la Suède. Qu'on soit dans un système à la suédoise qui est proche des systèmes anglais, bah, finalement c'est un problème de volume, c'est-à-dire que l'accès à la santé devient compliqué. Déserts médicaux, etc. Et nous connaissons cette situation. Du côté suisse, c'est le coût de la santé avec le risque de renoncement à se faire soigner. Donc là aussi, une difficulté particulière. Donc effectivement, il n'y a pas de système idéal, mais il est clair que le nôtre doit évoluer. Et je pense que sur la qualité des soins, sur l'organisation des systèmes, on va revenir à des systèmes, comme vous l'avez dit, assurantiels. Qui dit assurantiel, et je reprends les termes de...
Public ou privé ?
De Jean-Marc Daniel, je l'ai écouté ce matin, mais je le suis souvent... On est aussi dans l'introduction de la concurrence et une certaine privatisation. Il y a quand même de l'efficience dans la dépense à remettre dans ce système autour de la contribution et des dépenses et de l'organisation des dépenses. Il n'est pas normal de laisser l'hôpital porter une partie de cette dette et se désagréger pour l'ensemble des personnes.
Donc
c'est recibler aussi les plus fragiles, mutualiser ce qu'il doit l'être, mais et clairement une partie de ces coûts sera portée par ceux qui le peuvent, mais aussi avec un système assurantiel probablement un peu plus coûteux.
Donc on voit que c'est un peu ce qui se passe, hein, avec l'émergence de nouveaux centres de soins privés, avec aussi de nouvelles méthodes. On a un système qui est un peu dépassé.
Et c'est là où on retrouve de l'efficience dans la dépense. Il faut quand même aller vers... et ça, on va rejoindre la question de la réforme de l'État, de toute façon, et de la dépense publique.
L'OCDE, d'ailleurs, où vous travaillez, Stéphane Carcieux, a publié un rapport passionnant hier, que je veux souligner, sur les voies et moyens de redresser les finances publiques. Ils prennent plein de modèles, mais il y a trois voies, dont la voie danoise notamment pour redresser ses comptes publics, effectivement, qui passe par la réforme de l'État et l'IA. Pourquoi on n'y arrive pas en France ?
Alors, je crois que la mise en œuvre l'application de nouvelles technologies dans la fonction publique, c'est hyper important. C'est potentiellement une source d'économie très importante. Mais l'État, c'est une énorme machine avec des systèmes d'information très différents. L'application de l'IA, ça coûte cher aussi. Hein, faut pas penser. Faut pas penser que vous allez mettre ChatGPT devant chaque fonctionnaire et que ça va fonctionner. Ce sont des systèmes qui doivent utiliser les données avec des questions de sécurisation des données qui sont hyper importantes. Le développement de logiciels propres aux administrations, ça coûte très cher. Hein, pas penser que c'est un vrai investissement, et il faut vraiment bien penser à ce qu'on fait. Voilà, il y a des sources, mais c'est pas parce que on utilise tous ChatGPT ou les autres modèles d'IA qu'on peut penser que c'est aussi facile de le faire dans la fonction publique. L'autre sujet, c'est évidemment, une fois qu'on a fait des gains d'efficience et d'efficacité, etc., qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on redéploie les fonctionnaires en question. Où est-ce qu'on peut effectivement diminuer le nombre de fonctionnaires, peut-être en ne renouvelant pas les départs à la retraite? Où est-ce qu'on doit mettre des fonctionnaires? Un des gros sujets aujourd'hui, c'est que on a l'impression que depuis quelques années dans les services publics, on a beaucoup digitalisé, mais on peut plus parler à personne. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, c'est absolument horripilant. Il faut pas penser non plus que tout va être absolument digitalisé, il faut vraiment penser à la qualité du service.
Eh oui, bien sûr.
Mais ce que dit l'OCDE, c'est que au-delà de cette digitalisation, des gains d'efficience, etc., bon, ça c'est important, évidemment, il faut le faire, c'est l'avenir du service public, mais faut d'abord penser aux grosses masses de dépenses.
Oui,
masses de dépenses.
Ça, c'est le modèle autrichien, hein. C'est rabot général
en
et on
France,
évite d'augmenter
France,
la dépense des retraites.
En France,
hein.
Et chez nos voisins, c'est santé et retraite.
Ouais.
Et en France et chez nos voisins, c'est la moitié de la dépense publique. Mmh. Et comme en France, on a une dépense publique de 57% du PIB, donc on est au taquet avec peut-être la Suède ou la Finlande, je ne sais plus, mais enfin bon, on doit être au taquet. Ça représente des sommes considérables. Donc si vous voulez commencer à vous dire on a des sommes considérables qui sont génératrices de déficit, il va falloir aussi penser, et c'est, on revient juste au point d'avant, à comment est-ce qu'on fait pour réduire ces déficits-là, à contrôler la dépense.
Bah oui, maîtriser un peu.
Je voulais juste rebondir, mais voilà, Stéphane vient de le dire. C'est vrai que la singularité aussi française, elle est sur son modèle social le fait qu'on mutualise les systèmes de retraite, la santé, le reste à charge est un des plus bas
d'Europe,
de l'OCDE.
Oui.
Donc on est effectivement assis sur un système
trop généreux.
Public. Non, pas généreux. En tout cas, qui est coûteux et qui a une certaine efficacité, hein, quand même. Hein, il faut le noter. Sur la santé, même s'il y a des progrès à faire, on reste quand même bien classé. Sur les retraites, on dit on est peut-être trop généreux parce qu'il y a effectivement, là, par contre, l'avantage, c'est que le taux de pauvreté des retraités est quand même très bas en France.
Oui.
Beaucoup plus bas qu'ailleurs.
Oui.
Donc, il y a quand même des avantages à tout ça, mais c'est coûteux. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à continuer à le financer ou pas? Bien sûr, et comment on contribue à ce financement? Comment on fait des économies? Est-ce qu'on continue à indexer les retraites de la même façon? Comment on organise tous ces transferts? Est-ce qu'on peut compter sur la croissance? Est-ce qu'il y a effectivement une révolution du côté de l'IA qui nous permet des gains de productivité? Mais ce que je voulais dire, effectivement, sur l'IA, c'est que sûrement qu'il y a des ressources importantes pour un certain nombre de, j'allais dire, de ministères et de fonctionnaires. Mais juste ce chiffre-là, moi je regardais, dans la fonction publique d'État, 80% des effectifs, ou pas loin,
oui,
c'est l'éducation, c'est les militaires, et c'est le ministère de l'Intérieur.
Oui, donc on en a donc besoin.
Ben, là, vous le dites. Là-dessus, effectivement, à part l'administration de l'éducation...
C'est régalien, en fait.
Voilà,
c'est régalien.
Donc, en fait, si vous voulez, ça limite les effets de productivité. Et puis, comme Stéphane l'a dit aussi, c'est qu'effectivement, même, y compris dans l'administration, on aime des fois avoir des personnes physiques, parce que quand ça marche pas et qu'il y a des bugs,
Valérie, c'est un problème.
Donc, au fond, la question... Et puis, alors, dernier point sur la dépense, hein, qui est important, c'est qu'aussi, on a une dépense en termes de défense qui est assez importante. On a quand même l'arme nucléaire plus élevée qu'ailleurs. Donc,
à la fois... Et qui notre a appelé à augmenter, oui.
Voilà, on a aussi une structure démographique, on a un peu moins qu'avant, mais on a quand même aussi plus d'enfants qu'ailleurs. Donc vous regardez, par exemple, la dépense par élève en France n'est pas plus élevée qu'ailleurs, mais on a plus d'élèves. Donc fatalement, vous avez des
effets. Ça a baissé, ça, hein, du coup.
Ça a baissé, même très vite, et ce qui est largement inquiétant. Mais bref, tout ça, je veux dire, c'est que il va falloir faire des efforts. On est dans une situation très difficile, mais malheureusement, il y a assez peu de recettes miracles. Il y a des efforts à faire où il y a des... J'allais dire réponse structurelle, mais une réponse structurelle, elle se construit dans le temps. Et que là, en fait, on est sur une construction dans les prochains mois, les prochaines années, et qu'il va falloir faire les deux.
Et en fait, il faut faire à la fois le court terme et le long terme.
Oui, c'est ça.
Il faut penser à la réduction des déficits dans les cinq prochaines années.
Et
il faut une planification long terme, parce que la sortie par le haut, c'est la productivité et la croissance.
Et c'est ça.
On a un comité d'experts qui va y réfléchir dès le PLF 2027. Là, on va y venir. Valérie Chagnol,
je voulais revenir sur deux choses. Sur l'IA, effectivement, l'organisme. L'IA n'est jamais qu'un outil. Et effectivement, moi, ce que je crains, c'est que cette facilité relative amène une surréglementation. Parce qu'après tout, on peut complexifier les textes, puisqu'il y a un outil qui nous permet de les expliquer. Et ce que je crains aujourd'hui, alors je rentre dans un débat un peu plus long terme.
Ah, ça, c'est encore autre chose. L'IA, moteur de l'excès de normes.
Une des contreparties de ces réformes qui coûtent et qui sont douloureuses pour un certain nombre de gens, c'est la simplification, la déréglementation, et pas un ajout réglementaire parce qu'on a des outils qui nous permettent de gérer ça. Et
évidemment,
comme vous le dites, plus d'humain.
Car à ça.
L'autre aspect, je reviens sur les retraites, on est quand même aujourd'hui, et ça sera probablement un des sujets de la prochaine campagne, c'est la question de la retraite par capitalisation. On en a déjà parlé, vous savez que le cercle des épargnants y est très attaché, et nous voyons dans notre baromètre, année après année, une... prise de conscience sur la nécessité d'aller vers ce qu'on appelle de manière générique les fonds de pension, mais le rendre...
Et ça se fait à bas bruit, hein, le succès des PER, évidemment...
Mais le PER est volontaire, donc ça crée un sentiment d'inégalité. La question du pilier supplémentaire, aujourd'hui, est quand même centrale, et je pense qu'elle viendra dans le débat. Et
avec la question du financement qui pose toujours problème.
Et le troisième point, moi, qui m'a beaucoup choqué, c'est la question du taux d'activité des personnes entre 64 et 67 ans, et les prochaines réformes ne vont pas dans le sens d'une activité supplémentaire, parce qu'on veut réduire le cumul emploi-retraite, mais je trouve que là, c'est une économie qui est malvenue.
Les sages allemands préconisent d'allonger encore, on arrive à 67 ans en 2031 en Allemagne pour la retraite, des experts vient de dire qu'il faudra probablement aller au-delà. Allez, il nous reste 5 minutes, je voulais simplement toucher un mot de ce rapport qui a été commandé par Bercy auprès de 4 économistes qu'on connaît bien, souvent invité des experts, pour faire des préconisations d'ici à juillet pour redresser les comptes publics. Alors, on parle d'une initiative inédite. Bon, un rapport, on sait à peu près, on sait à peu près ce qu'il faut faire, non, pour redresser les comptes publics. À quoi il va servir ce rapport? Non, pas tout à fait d'accord.
Si on savait exactement ce qu'il faut faire, on le ferait. Non.
C'est pas parce qu'on sait ce qu'il faut faire qu'on est prêt à le faire. Non, ça, ça demande un peu de courage politique.
Quelle est l'ampleur du redressement? Sur quel, comment on l'étale ou pas, hein? C'est-à-dire, est-ce que... Il y a différentes façons de le faire. Hein. Quelle est la trajectoire optimale de redressement des comptes publics? C'est tout sauf évident. Alors après, il y a des règles.
C'est quoi? C'est l'adapter en fonction de la croissance,
attention aux économies. Alors après, je vais pas entrer dans la technique, mais il y a des effets de multiplicateurs qui sont pas les mêmes en fonction de la situation dans le cycle, en fonction des mesures que vous prenez. Et donc des fois, ça peut être un peu contre-productif. Hein. Par exemple, si vous, vous faites un choc assez sévère, bah, des fois, vous avez des effets qui sont contre-productifs. Après, vous avez d'autres idées, c'est de le lisser un peu plus dans le temps, mais par contre, il faut être crédible. C'est ça. C'est que vous pouvez dire, votre cible, vous la reculez.
On a un petit déficit de ce côté-là. Hein.
Voilà. Mais par contre, il faut être crédible d'un ajustement qui soit plus souple, qui s'adapte dans le temps, et donc il y a des effets moins récessifs, mais par contre, il faut le faire durablement.
Donc ça veut dire quoi, Mathieu? Si la croissance va baisser, on va réviser à la baisse, hein, la croissance française, l'Allemagne va le faire, passer de 0,9 à 0,5, on sera sûrement pas très loin. Est-ce qu'il faut qu'on réduise l'effort? On est quand même à 5% de déficit, pardon. Est-ce qu'on doit réduire l'effort de redressement des comptes publics?
Alors, réduire l'effort, d'abord, je voulais dire encore une chose là-dessus, c'est que, en plus, il y a des engagements européens, il y a des règles européennes, on a tendance à l'oublier, mais il y a quand même des règles européennes.
On a assoupli. Et qu'on n'a jamais respecté.
Bah, plus ou moins quand même. Enfin, elles sont compliquées hein, quand vous les suivez. Bon, bref, il y a ça. Et puis après, vous avez la question politique. Quand on dit l'effort budgétaire, fait, moi, je suis d'accord pour sortir tout ça des questions politiques. Mais la réalité, c'est qu'il faut trouver des compromis. Il faut trouver des compromis d'adaptation. Certains vont dire, il faut faire un choc
par les ordonnances.
D'autres, au contraire, pas du tout. D'autres, il faut faire que des économies sur la dépense. D'autres dire, faut augmenter la fiscalité. La réalité, c'est qu'il faut faire un peu de tout ça. Mais il faut avoir, et ce qu'on dit un peu, c'est il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie de moyen terme, voire de long terme, qui soit crédible sur ce redressement, de façon à ce qu'il soit lissé dans le temps et qui préserve les investissements d'avenir. Mmh. C'est ça le risque. C'est qu'en fait, quand vous allez couper dans la dépense, en général, vous coupez dans les choses qui vont préparer l'avenir. Mmh. La réalité, elle est ça, parce que les gens sont plus sensibles à des questions sur le pouvoir d'achat, sur l'indexation des retraites, que l'investissement que vous allez réaliser sur la transition énergétique, sur l'éducation dans les 10 prochaines années, etc. etc.
Ou la défense.
Ou la défense. Mmh. Et donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous privilégiez le court terme au détriment du long terme. Et donc, c'est vrai qu'il faudrait une forme de garde-fou pour éviter ça, mais on voit que le débat politique aujourd'hui ne le permet pas. Mais clairement, il va falloir faire un ajustement budgétaire conséquent et durable, tout en préservant l'avenir, et je pense que c'est ça le défi qui nous attend.
Et le défi des quatre auteurs, on peut les citer, hein, Xavier Jaravel, Xavier Rago de l'OFCE, Jean-Luc Tavernier, l'ancien patron de l'INSEE, et Natacha Valla.
J'ai une petite expérience dans ce domaine en temps passé au Conseil des Finances Publiques, mais, et nous avons eu aussi à siéger auprès d'anciens ministres des Finances. La question est aussi effectivement, alors si je prenais qu'un seul exemple, c'est effectivement inverser le raisonnement, c'est-à-dire que le budget annuel doit se conformer à la programmation pluriannuelle et pas le contraire. Aujourd'hui, la programmation pluriannuelle s'adapte aux aléas annuels et donc on ne sort pas de cette équation qui ne permet pas de faire des programmations de long terme en matière de
dépenses. Elles ne sont jamais respectées.
Cette
courbe bien connue des budgétaires.
Enfin, du moins, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas respectées.
Toujours des objectifs très ambitieux, ils ne sont jamais respectés.
Et ce principe et cet état d'esprit n'est pas favorable effectivement à des projections durables et on rentre, vous l'avez dit, mais on le sait tous, dans un cycle politique qui n'est pas du tout favorable à ça, avec une absence de majorité et effectivement des demandes qui sont tout à fait opposées à cela.
Est-ce qu'on doit s'adapter dans le cycle, au cycle économique qui ralentit, là on voit bien que ça va être compliqué, 2026-2027, est-ce qu'il faut revoir à la baisse les prévisions d'efforts, d'économie, Stéphane Carcillo?
Écoutez, moi je pense qu'il faut évidemment tenir compte du cycle économique, c'est extrêmement important, mais vu la situation budgétaire française, de toute façon, il va falloir planifier ces réductions de dépenses. Après, toutes les réductions de dépenses n'ont pas les mêmes effets sur la croissance. Enfin, je suis pas un spécialiste, c'est Mathieu qui sait ça, mais la nature de l'ajustement, ce qu'on cible comme type de dépense, va pas avoir le même effet. Notamment, c'est sûr que lorsque vous ciblez des réductions de dépenses qui vont affecter des personnes qui ont très peu d'épargne, par exemple, bah ça va affecter tout de suite leur consommation et ça peut avoir des effets plus importants. Donc le ciblage des efforts, la nature des dépenses qu'on cible, là pour le coup, c'est pas neutre du tout. Donc on peut revoir cette
composition. Donc c'est cibler les plus aisés, si je vous entends bien. C'était une des préconisations du CAE dans sa boîte à outils.
Je pense que c'est un mix. D'abord, Mathieu Plan, ce qu'il faut rappeler, c'est les chiffres qui sont assez conséquents. Le problème, c'est qu'on part d'une situation qui est très dégradée.
Oui.
Beaucoup plus dégradée que nos voisins.
Il est plus dégradé d'or.
À ce niveau de déficit et avec la croissance qu'on a, on a une dérive de la dette publique. Sachant que le renouvellement de notre dette, qui s'était fait avec des taux très bas pendant la décennie 2010, aujourd'hui nous coûte cher. Et que, progressivement, on a plusieurs dixièmes de points de charge d'intérêt supplémentaire chaque année qu'il va falloir déjà compenser. À ça s'ajoute l'effort de défense, la transition. On s'est engagé, on a fait une suspension de la réforme des retraites qui n'était pas prévue, qui devrait reprendre des économies. En fait, on a des dépenses engagées qui sont importantes aussi. Oui. Et donc, le simple fait de stabiliser le déficit, c'est déjà faire des ajustements budgétaires.
Eh oui.
C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, on va devoir compenser.
Et pas qu'un peu, hein. On parle d'une centaine de milliards.
Et donc,
hein,
voilà. Et donc, vous arrivez à, c'est facilement d'ici la fin de la décennie, à plus de 100 milliards d'euros d'efforts bruts. C'est-à-dire vraiment ce qu'il va falloir mettre sur la table. Donc, ça veut dire, et c'est pas 20 milliards sur 5 ans, hein. C'est que c'est une montée en mode escalier.
Plus,
arriver à 100 milliards par an d'ici la fin de la décennie. Donc, 100 milliards, globalement, vous êtes obligé d'avoir un éventail assez large. C'est-à-dire, vous pouvez pas faire juste du chirurgical. Et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué avec un effet de montée en charge pour le rendre plutôt intelligent et accompagné de mesures structurelles.
On va voir, après la coupure pub, si une partie de l'effort doit reposer sur les entreprises à qui on a gelé les allègements de charges après l'augmentation du SMIC. Faut-il sacrifier la compétitivité des entreprises sur l'autel des économies budgétaires? Ce sera le prochain thème des experts. Et puis, finalement, si la solution, est-ce que c'était pas le quantique, la technologie d'après-demain qui pourrait, on va le voir, doper très sérieusement notre croissance. Ne quittez pas, on se retrouve après une très courte pause publicitaire.
BFM Business et la Tribune présente les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h passé de 2 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts avec autour de la table Valérie Plagnol, Mathieu Plane et Stéphane Carcillo. On discutait juste pendant la coupure là de l'emploi des seniors, du taux d'emploi des seniors qu'évoquait Valérie Plagnol. Stéphane Carcillo, redonnez-nous à l'antenne ce chiffre totalement dingue. Je vous demandais si le taux d'emploi des seniors français entre 60 et 64 ans était en France équivalent à celui de l'Allemagne, quel serait le niveau de recettes supplémentaires?
Alors, c'est si le taux d'emploi en général était équivalent
total
à celui de
l'Allemagne. Donc, on met les jeunes aussi. C'est les deux aussi, déficits
en
France.
Sur la tranche 25-54 ans, on est aussi bon que l'Allemagne, voire au-dessus. Mmh. Nos deux problèmes bien identifiés, c'est le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi des seniors. Et ça contribue à un taux d'emploi global plus faible de presque 10 points par rapport à l'Allemagne. On est à 68-69, l'Allemagne est à pratiquement 78% de taux d'emploi. Et si on avait 10 points de taux d'emploi supplémentaire, ça générerait pratiquement 140 milliards de recettes fiscales et sociales supplémentaires, c'est-à-dire contributions sociales, impôts, ce qui, grosso modo, réglerait l'essentiel de nos déficits.
Plus besoin de faire d'économies, pas besoin d'augmenter les impôts, simplement mettre tout le monde au travail rapporte près de 150 milliards.
Voilà.
C'est quand
donc
même
ça, c'est la, un peu
ce
la,
chiffre est dingue.
Voilà. Alors, c'est la sortie par le haut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Ça ne nous exonère pas de faire des économies à court terme parce qu'en fait, augmenter le taux d'emploi, c'est des réformes structurelles. Oui. C'est des choses qu'on va faire aujourd'hui et qui vont se voir dans 3, 5, 6 ans, 10 ans parfois. Pourquoi? Parce que augmenter le taux d'emploi, c'est parfois jouer sur des choses qui ont un effet rapide, comme par exemple l'accès à la retraite ou des éléments d'incitation fiscale, ça peut être aussi les éléments sur l'assurance chômage, des choses comme ça. Bon, mais ça va jouer
tout ce qu'on n'a pas fait, remettre l'assurance chômage, une réforme de l'assurance chômage.
On l'a quand même fait, mais ce que je veux dire, c'est que ça a des effets pour une partie, c'est des effets incitatifs financiers qui jouent à court terme, mais cette partie-là, ça n'est qu'une partie du problème. Il y a une très grosse partie du problème qui sont des barrières non financières à l'accès à l'emploi, la santé chez les seniors, la formation. La formation chez les plus jeunes. Et ça, c'est des réformes structurelles qui mettent énormément de temps. Ça, c'est l'aspect volume, d'accord, qui nous permettrait de sortir par le haut de cette crise, mais qui jouera, qui peut jouer qu'à l'horizon de plusieurs années. Il y a un autre aspect qui est hyper important, c'est la productivité, c'est l'aspect prix. En augmentant le taux d'emploi, on augmente le nombre d'heures travaillées dans l'économie totale, ça finance mieux nos dépenses publiques. Mais chaque heure travaillée peut aussi produire plus. Et pour ça, il faut investir dans les nouvelles technologies.
On va voir. Et dans le quantique, notamment.
Dans le quantique, il faut que nos PME investissent. Et ça permet en plus d'être plus productif par heure travaillée. Et ça, c'est le deuxième aspect de la sortie par le haut de notre problème de déficit public.
Mathieu Plane. C'est toute la question de la croissance potentielle, en fait. Hein. Si on veut redresser notre croissance potentielle, il y a deux leviers. C'est comment on augmente le nombre d'emplois dans l'économie, le nombre d'heures travaillées. Et donc, par quel mécanisme, par quelle réforme à la fois d'incitatif, mais aussi de formation, notamment, qui pourrait jouer là-dessus. Et après, effectivement, tout le débat aujourd'hui, il est sur la trajectoire de productivité aussi. Et y compris, est-ce que l'IA va générer des gains de productivité?
Vous y croyez, vous? Ouais, beaucoup de mal, c'est pas de solo, on ne sait pas mesurer, mais...
C'est savoir comment ça va s'organiser.
Naturellement, on dirait que ça va être dingue, quand même.
Ça, je vois pas comment ça peut pas avoir d'effet, en fait.
On voit qu'on peut travailler beaucoup plus grâce à l'IA.
Le FMI, pareil, le FMI montrait au niveau mondial que les gains potentiels de croissance, effectivement, sont les plus forts, sont du côté de l'IA. Mais par contre, la fourchette sur la croissance mondiale, elle est comprise entre 0,1, 0,2 de croissance supplémentaire par an jusqu'à 1%. Donc on a quand même une fourchette qui est extrêmement large. Aujourd'hui, personne n'est vraiment capable de dire quels vont être les réels gains de cette IA. Et d'ailleurs, est-ce que ça va substituer réellement à des emplois? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que ça permet d'intégrer plus facilement des gens sur le marché du travail ou pas? Donc il y a tous ces enjeux-là, mais c'est vrai que on rentre dans une phase avec d'abord beaucoup d'incertitudes sur cette croissance potentielle, et on était jusqu'à présent aussi dans une phase de risque de stagnation séculaire.
Bah oui.
C'est-à-dire que la croissance
potentielle de la France, c'est 1%.
C'est-à-dire qu'on
n'a
plus de démographie, on n'a plus de productivité, donc on n'a plus de ressources. Et ce qu'il ne faut pas oublier là-dessus, c'est que la croissance, ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de tout, mais quand même, la croissance, c'est ce qui vous fait vos recettes fiscales et vos recettes sociales. Et donc, si vous avez une dépense qui dérive et qui accélère, qui va plus vite que cette croissance, bah, vous avez une assiette fiscale qui augmente peu et une dépense qui déconnecte. Et donc là, vous avez quand même un gros problème de financement de votre économie, de votre modèle social.
C'est ce qu'interroge Alternance. Hein. Vous pouvez agir sur mon compte Twitter, @lejeanrat, qui pose cette question qui n'est pas bête. Je lui ai posé une question bête, ça n'est pas bête. Les États-Unis s'endettent, le Japon s'endette, la Chine s'endette au travers des gouvernements locaux. Pourquoi l'Europe est-elle le seul territoire à penser dette avant de penser croissance?
Les États-Unis il semblerait que la mesure de la productivité soit en train de progresser. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, mais on vient de le dire à travers tout ce travail, c'est que, effectivement, la croissance et la productivité, la croissance potentielle, c'est aussi la croissance démographique. Nous n'avons plus ce levier comme nous l'avons eu dans les 30 Glorieuses.
C'est la base d'augmentation de la croissance potentielle.
Des personnes.
Les naissances.
Voilà. Mais sans les naissances, on a aussi le taux d'activité. On vient d'en parler, effectivement, c'est très important. L'autre aspect aussi, c'est laisser et peut-être demander à l'État de se retirer de l'économie, de déréglementer, parce que la compensation pour les entreprises de toutes ces barrières à l'entrée, on parle beaucoup de la capacité à aller vers l'emploi pour les personnes qui n'y sont pas, mais parlons des entreprises qui hésitent à embaucher.
Ben oui.
Trop de règles, trop de... Alors, si on ne peut pas alléger immédiatement la fiscalité, parce qu'effectivement, on a ce souci, autant leur donner aussi une marge de flexibilité beaucoup plus importante et se retirer véritablement, refluer dans la réglementation. L'Europe semble en prendre conscience aussi. Et je pense que c'est une des compensations et c'est un des leviers majeurs. Il est invisible, mais il est prégnant sur l'ensemble de l'activité économique.
Il y a un sujet, on parle emploi, Stéphane, il y a un sujet qui enflamme les chefs d'entreprise. On était avec le MEDEF dans un événement hier spécial PME à la Station F. Patrick Martin, le président du MEDEF, est revenu sur le sujet brûlant des allègements de charges. Le gel du barème des allègements de charges pour compenser la hausse, enfin qui ne va pas compenser du coup la hausse du SMIC au 1er juin. On va l'écouter, Patrick Martin, nous dire ce qu'il pense de ce gel.
Vous amputez de plus de 2 milliards d'euros d'allègements de charges au même moment où, je le redis, il n'y a plus de croissance, il y a des destructions d'emplois, il y a un investissement qui est au ralenti et en regard une compétition internationale qui s'intensifie, mais y compris pour nos PME et nos TPE, c'est un crime contre l'esprit. Alors on comprend pourquoi le gouvernement fait ça, parce que ça passe non pas par un projet de loi de finances rectificative mais par un décret. Donc politiquement c'est assez indolore. Mais quand même, on n'est pas des lapins de 6 semaines, on va pas nous la faire. Moi, si on vient de me démontrer que à l'automne, la situation budgétaire permettra de réenclencher ou de réaligner les allègements de charges, j'achète séance tenante. Bon courage à qui voudra nous démontrer ça.
Un crime contre l'esprit. Voilà comment Patrick Martin qualifie quand même le gel des allègements de charges. Alors, il dit que c'est bon, politiquement, c'est facile. Le sujet du gouvernement, c'est aussi que on arrête de faire dériver les allègements de charges. On est passé de 50 à 83 milliards d'euros d'allègements de charges entre 2020 et 2026.
Sur est-ce 2014, vous étiez autour de 20 milliards.
Et on était milliards, autour de 20 milliards en 2014.
C'était la première hausse de l'emploi à l'époque. Avant, ça déjà
avant la transformation du CICE. Alors ma question ce matin, c'est est-ce qu'il faut sacrifier, c'est quand même un allègement du coût du travail, donc est-ce qu'il faut sacrifier la compétitivité de nos entreprises sur l'autel des économies budgétaires? On rappelle qu'il faut 120 milliards d'efforts. Stéphane, puis Valérie, puis Mathieu.
Bon, c'est une enveloppe qui est complètement à la dérive et pas du tout pilotée. Il faut quand même le dire. Pourquoi elle n'est pas pilotée? D'abord parce que le SMIC augmente automatiquement. Le gouvernement n'a pratiquement aucune marge de manœuvre sur l'évolution du SMIC au regard des règles de revalorisation automatique avec l'inflation, y compris automatique infra-annuelle, c'est-à-dire en cours d'année. Ensuite, le barème des allègements est totalement indexé sur le SMIC. Donc quand le SMIC augmente, des gens sont rattrapés par le SMIC, il y a plus de personnes au SMIC, il augmente en plus que le SMIC augmente plus vite que les autres salaires. Donc on a une masse de plus importante de gens qui sont au taux d'exonération maximale. Et en plus, il y a plus de gens qui sont sur les taux les plus élevés aussi parce que tout le monde est rattrapé. Donc ce système objectivement n'est pas piloté. Il est totalement dans
un système automatique. Oui,
c'est un système automatique
et du coup, pilotage automatique.
Dans un contexte
et ça devient hors de contrôle.
On peut pas avoir une enveloppe qui représente pas 2 milliards, qui ne représente pas 7 milliards, qui représente 75 milliards, qui dérive automatiquement. Donc, le gouvernement a totalement raison de reprendre la main sur ce sujet. Ça, c'est très très clair. Moi. Ce que je pense,
en même temps, c'est un alourdissement du coût du travail, on est d'accord.
Alors, oui, mais.
Les entreprises vont devoir payer et la hausse du SMIC et le gel du barème des allègements.
Tout à fait. Alors, moi, ce que je recommandais, ce qu'on recommandait dans le groupe d'experts du SMIC, c'était de cibler la réduction, c'est-à-dire de réduire les allègements au-delà de deux fois le SMIC. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun effet emploi prouvé. Au-delà de deux fois le SMIC. On sait qu'il y a des effets emploi parce que le travail est sensible à son coût au niveau du SMIC et à proximité du SMIC, très peu après. Je pense que la réforme du premier ordre, ça aurait été de changer ce qu'on appelle le point de sortie du barème, c'est-à-dire en gros, plus d'allègements au-delà, par exemple, de deux fois le SMIC, plutôt que d'avoir plus d'allègements aujourd'hui au-delà de trois fois le SMIC. Je pense que c'était la réforme de premier ordre. On nous dit, ah mais si vous faites ça, il y aura un problème de compétitivité, etc. Ouais. Mais il y a des évaluations qui ont été faites par l'OFCE, par d'autres centres, qui montrent qu'en fait, quand on a fait le CICE et qu'on a énormément élargi l'assiette des allègements pour aller jusqu'à 3 fois ou 3 fois et demi le SMIC, les entreprises ont utilisé l'essentiel de ces sommes alors au niveau du SMIC toujours a priori pour sauvegarder de l'emploi,
c'est de l'emploi,
mais
oui,
au-delà pour augmenter les salaires. Alors quand on augmente les salaires avec des aides publiques, je vois pas en quoi ça joue sur la compétitivité. Si on l'utilise pour baisser les prix, là je veux bien. Mais donc, l'argument en compétitivité, je ne le comprends pas du tout. Bon. Alors, donc je pense que le first best aurait été de changer le barème et d'enlever des allègements là où ils ne servent pas à soutenir l'emploi.
Donc, au-dessus de 2 SMIC et demi, aujourd'hui c'est 3, on a déjà ramené de 3,5 à 3. Vous dites au-dessus de 2.
Moi, je me dis, c'est le first best pour reprendre la main.
Je suis pris.
Mais le gouvernement n'a pas fait ce choix. Il a fait le choix d'un gel continu pour plusieurs raisons, à mon avis. D'abord, parce que politiquement, c'est plus simple, je pense. Vous gelez et du coup, en prenant le risque du coup d'effet d'emploi potentiellement négatif au niveau du SMIC dans un contexte dégradé, mais probablement très petit la
première année. Au moment où le chômage augmente.
À mon avis, tout petit. En tous les cas, si le gel était prolongé, on le sentirait, mais probablement. Et donc, il a, pour des questions politiques, et pas rentrer dans le débat des secteurs qui seraient affectés, parce que si on supprime au-delà de 2 SMIC, l'industrie va être plus taxée que d'autres, etc. Donc, pour sortir de ce débat, il a fait quelque chose d'uniforme. À mon avis, c'est la première raison. La deuxième raison,
c'est... Mais il a raison. Ce que vous dites, c'est qu'il a raison.
De quoi? De reprendre la main?
Oui.
Oui, il a raison de reprendre la main. Et il a voulu éviter le débat. Ça, c'est un choix politique. Je pense qu'il a...
Oui, bon, on voit que c'est compliqué en ce moment, effectivement.
Mais juste avant de redonner la main, le deuxième élément, à mon avis, pour lequel il a fait ça, c'est que je pense qu'il veut aussi probablement préparer d'autres ajustements. Parce que des ajustements, là, il y en a sur la sphère emploi, de désindexation. Mais on va avoir l'indexation des prestations sociales au 1er octobre,
la bombe
au 1er janvier,
budgétaire à venir.
Au 1er avril. Ouais. Et à mon avis, la préparation, c'est qu'on va dire à un moment donné, on a désindexé toutes les aides aux entreprises, que c'est perçu comme des aides aux entreprises, des allègements, même si ça fait un énorme effet de redistribution vers les salariés en termes d'emploi et de salaire, c'est perçu
C'était
comme des aides aux entreprises.
C'était considéré comme tel par le rapport sénatorial.
Et je pense que du coup, en termes d'équilibre politique, à mon avis, il y a aussi quelque chose qui joue dans
dans les différents arbitrages difficiles qu'on va devoir faire, il va falloir montrer que
on a fait payer les entreprises, on va faire payer aussi sur
tout le monde y compris sur les aides sociales. Voilà.
Valérie Pagnol.
Un des grands défauts de cette réforme, enfin de ces réformes, ça a été quand même la smicardisation. Et je vous rejoins. Alors non seulement sur les coûts, mais aussi sur la qualité de l'emploi et la productivité. Est-ce qu'aujourd'hui on est quand même sorti du chômage de masse d'il y a 20 ans, 25 ans. Est-ce que maintenir un taux de SMIC, de SMICAR, qui ne bouge plus en fait, et qui reste à vie dans ses salaires, c'est vraiment nécessaire au regard des
transformations économiques. Ce que vous nous dites, c'est que c'est une trappe à bas salaire.
C'est une trappe à bas salaire. Et ça l'a été, c'est démontré. Aujourd'hui, justement, le monde a changé. Alors, on revient à... Comment peut-on compenser les entreprises de telle sorte qu'elles retrouvent ou qu'elles ne perdent pas cette compétitivité? Moi, j'ai tendance à penser que ça va du côté des impôts de production. Alors, c'est vrai que c'est pas facile dans ces arbitrages budgétaires à court terme et que il faut, encore une fois, laisser le marché arbitrer, préparer la formation et s'élever dans la productivité grâce justement à une adaptation à de nouveaux outils technologiques. Sinon, on va se retrouver avec du chômage de masse, encore une fois, hein, quels que soient les allègements qui sont promis ou qui ne sont plus.
Mathieu Plane.
Non, moi je crois que c'est un grand sujet, mais très très sensible. Et je suis d'accord.
Ça met le feu aux chefs d'entreprise. Hein. Alors, très franchement, ils sont très remontés contre ce sujet.
C'est vrai qu'il faut vraiment regarder dans le rétroviseur, quoi. C'est-à-dire que depuis 30 ans, chaque gouvernement a rajouté une couche.
Oui.
En réalité, à ses exos. Oui. Et je trouve que c'est devenu là. En fait,
ça avait commencé sous Édouard Balladur.
Oui, c'est
si
ça.
Je dis pas de bêtises.
Dans les années 90.
Oui, au début des années 90, 93.
Ouais,
c'est une addiction.
Non, mais il y avait une vraie raison à l'époque.
Oui,
on avait un chômage de masse à 2-10% avec l'essentiel des personnes qui étaient peu qualifiées, sans aucun diplôme. Donc il y avait un sujet coût du travail.
C'est pas une idiotie intellectuelle. C'est-à-dire que cette construction, c'est de dire, en fait...
Ça avait plutôt bien marché.
On veut baisser le coût du travail sans baisser le salaire des travailleurs les plus modestes, en tout cas en bas de l'échelle des salaires. Et donc l'idée, c'est de dire on réduit les cotisations patronales sur les bas salaires. Et donc ça commence effectivement dans les années 90, après il y a eu les 35 heures, après il y a eu le CICE, après il y a eu le pacte de responsabilité, après il y a eu la transformation de tout ça, et vous avez une dérive qui n'a pas été contrôlée budgétairement, de 20 milliards à quasiment 80, mais c'est quand même colossal, colossal. Et aujourd'hui, c'est plus maîtrisé, parce qu'effectivement, quand vous revalorisez le SMIC, ce qu'a très bien expliqué Stéphane, c'est qu'en fait, ça fait concentrer les salaires sur le bas, et donc ça fait exploser le coût de ces allègements. Mmh. Et d'ailleurs, 2021-2023, on a un épisode inflationniste,
oui.
On est passé de 12% de personnes au SMIC à 17%. Et donc, il y a une explosion des exos de cotisations patronales à ce moment-là. Ben, on va retrouver
le même phénomène.
Là, on va et budgétairement, ça va nous coûter cher. Et en plus, ben, ça fait effectivement un effet de concentration.
Un tassement terrible. Non, mais politiquement, on voit les conséquences aussi. C'est-à-dire que toutes les classes moyennes ont l'impression de se faire rattraper par le salaire minimum.
Vous avez une concentration
minimum,
des salaires terrible. Là-dessus. Alors, c'est vrai que, du coup, vous êtes quand même coincé là-dessus. Parce que quand vous voulez refonder tout ça, ben, vous dites, je vais mettre moins d'exonération sur les bas salaires et peut-être un peu moins lisse. Enfin, faire un truc moins dégressif. Sauf que les secteurs qui emploient les personnes au SMIC, que ce soit le BTP, l'hôtellerie restauration, les services à la personne, vous disent nous on va plus embaucher quoi, on va plus embaucher.
Donc il va y avoir un effet sur l'emploi.
Il y a un risque d'effet sur l'emploi. Mais ce que je veux dire aussi là-dessus, c'est qu'on a créé un espèce de monstre fiscal avec le temps, avec ces couches qui se sont superposées. Je regardais d'ailleurs, c'est l'OCDE qui montre très bien ça, que le taux de cotisation patronale au niveau des bas salaires aujourd'hui en France est un des plus faibles de l'OCDE. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de cotisations patronales. Je crois qu'il n'y a que la Nouvelle-Zélande qui est devant nous.
Ouais.
Et si vous prenez au niveau du salaire médian, on est quasiment le plus élevé de l'OCDE. Donc c'est quand même, on est le seul.
Donc l'écart est dingo.
Il faut se poser la question.
Et le SMIC est proche du salaire médian.
Et donc il pose quand même plein de problèmes budgétaires, progression de salaire, montée en gamme, risque de trappe à bas salaire. Donc il faut refonder. Donc ça va être compliqué. C'est vrai qu'à court terme, le gouvernement propose quelque chose qui n'est pas un engagement politique très fort d'une réforme. C'est de dire, en fait, on fera des économies, ce qui permet aussi d'engager potentiellement des désindexations sur les prestations sociales ou même sur le barème de l'impôt sur le revenu pour la suite. Mais dire, voilà, en fait, on essaie d'équilibrer un peu les choses. Et puis, dernier point, c'est que pour moi, c'est pas vraiment une politique de compétitivité, c'est une politique d'emploi.
Ouais.
Je veux dire, la compétitivité, si vous l'avez fait au niveau du secteur industriel, l'industrie chimique ou l'industrie pharmaceutique, elle en touche assez peu de ces exonérations.
Oui.
C'est pas là-dessus qu'elle va aller se battre.
Mieux de baisser les impôts de production.
Et les taux d'exonération, ils sont maximum à l'hôtellerie-restauration, au BTP. Ils exportent pas l'hôtellerie-restauration et le BTP. Donc, si vous voulez faire de la politique industrielle, c'est pas par de la politique d'exonération. Non. Il faut faire sur les impôts sur la production, il faut réfléchir au financement d'innovation, à plein de trucs.
C'est ça.
Mais donc voilà. Donc il faut refonder ce système.
Un outil, un objectif.
Voilà. Mais c'est pas une politique de compétitivité extérieure. C'est une politique d'emploi essentiellement. Moi, je pense que justement, on est passé à côté de la politique industrielle pour ces raisons-là.
Et il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme tu l'as dit, Mathieu. On a quand même des évaluations qui ont montré qu'au niveau du SMIC, c'était utile.
Ah bah oui.
Au niveau du SMIC, c'était utile. Et donc, à un moment donné, il va falloir recentrer cette politique là où elle est utile. Et arrêter de finalement arroser toutes sortes d'emplois avec ces aides ou là où il n'y a pas d'effet emploi démontré. On ne peut plus se permettre ce genre de choses. Donc il va falloir recentrer la politique là où elle est utile. C'est une politique
ce qui est vrai pour l'apprentissage aussi.
Et elle doit être utile là où il y a des effets emploi démontrés.
Si on veut faire de la politique industrielle, on fait différemment.
Et si on fait de la politique industrielle, on fait différemment. De la compétitivité, on fait différemment. Un outil, un objectif.
Allez, il est 10h21. Ça marche aussi pour la fiscalité. Hein,
Timbergen.
Voilà. Il est 10h passé de 21 minutes. Il nous reste quelques minutes encore ensemble. Je voulais qu'on parle de cette note du Trésor sur les potentiels incroyables qu'aurait le quantique sur notre croissance. Alors, le quantique, Emmanuel Macron a annoncé 1 milliard d'investissements vendredi dernier dans les calculs quantiques. Et cette étude du Trésor estime que cette technologie pourrait, à terme, augmenter le PIB français d'environ 8%. Ça paraît encore très loin, ceci dit.
Ça
Valérie
paraît
Pagnol,
encore
là.
Très loin, effectivement. Alors, je ne suis pas une spécialiste de cette technologie, mais effectivement, on y pose beaucoup d'espoir et beaucoup d'entreprises.
Ça peut être la prochaine révolution
et
industrielle.
On est déjà dans une révolution aujourd'hui avec l'IA, donc c'est la prochaine étape dans cette révolution. Elle est tout à fait extraordinaire, il faudra probablement la maîtriser. Ça pose des problèmes d'ailleurs sur les anciens systèmes et ce sont des facteurs de transformation tout à fait remarquables. Sur les estimations du Trésor, j'avoue que je n'en sais trop rien, mais encore faut-il qu'il y ait de l'investissement, encore faut-il qu'on laisse effectivement le monde de l'entreprise se réorganiser autour de cette technologie, et ça prend du temps. C'est sûr que l'humain ne s'adapte pas aussi vite, les organisations du travail ne s'adaptent pas aussi vite. Je voudrais rajouter, je ne sais pas si ça aura un effet, mais il ne faut pas oublier la transition énergétique. Les enjeux sont aussi des coûts initiaux.
On a beaucoup parlé d'électrification cette semaine.
Voilà, tout ça effectivement participe du même phénomène. Si on plaque cette nouvelle technologie qui effectivement est très prometteuse sur notre système tel qu'il est, ça va surtout être des coûts supplémentaires, je crois. Ah. C'est vraiment, le monde change et comment on retrouve l'agilité à s'adapter à ce monde qui change extraordinairement.
Mais oui. Mais il change tellement vite qu'on se dit que le quantique, finalement, au lieu d'être après-demain, c'est peut-être juste
peut-être,
à notre portée là, quoi. Et qu'on a encore.
Et il y aura des craintes
jouée,
et il y aura des espoirs.
Je crois, alors, c'est vrai que c'est un sujet très compliqué. On fait partie des leaders mondiaux dans le quantique, hein, donc, et que c'est effectivement une révolution. C'est très complexe.
Ouais.
C'est très complexe.
Oui, on a du mal à appréhender.
On a quelques ordinateurs quantique qui commence à fonctionner. Avant, c'était pas en état de fonctionner. Là, ça commence à fonctionner. Ça permet de résoudre des problèmes ultra complexes qu'on n'était pas capable de résoudre, hein, sur d'ailleurs le séquençage d'une protéine, je crois, sur le transport, la logistique, la finance. Donc, il y a quand même un certain nombre de domaines qui pourraient être concernés. Ça nécessite effectivement des technologies, des investissements importants. Alors, je lisais que quand même, on était capable de faire des ordinateurs quantiques qui sont à 80% de composants européens. Donc on est quand même
la préférence européenne fonctionne.
Mais par contre, et donc il y a un enjeu économique, hein,
de chaîne de valeur, etc.
Ouais. Et il y a un enjeu aussi stratégique parce qu'apparemment il y a la question du cloud.
Ouais.
Et pour le coup, on est
très dépendant des Américains.
On est très indépendant. Donc c'est vrai que c'est des vrais sujets. Et quand on parlait de côté budgétaire, ça c'est aussi un sujet. C'est-à-dire que le risque, c'est aussi de renoncer à l'avenir. Et moi, je pense que justement, ces enjeux-là sont très importants. 1 milliard, finalement, aujourd'hui, ça paraît.
C'est pas grand-chose.
Pas beaucoup. Peut-être pour quelque chose où on a encore une forme de.
Quand on voit les investissements dans l'IA, on dit que c'est pas grand-chose.
Alors c'est vrai que les États-Unis, la Chine sont aussi très costauds, mais la France est considérée sur ce segment-là. Ouais. Donc il faudrait pas louper le coche pour des questions comme ça, mais par contre, il faut réfléchir à des enjeux aussi de souveraineté numérique qui deviennent de plus en plus importants dans un monde où justement cette information quantique ou de l'IA va être ultra dominante. Et donc, si on nous ferme le robinet à un moment donné, En fait, voilà, vous avez beau avoir fait des investissements colossaux, être technologiquement adapté, avoir des très bons ingénieurs, si vous pouvez pas les utiliser, c'est terminé. Donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir à tout ce modèle-là. Et comme Valérie disait, en fait, le monde change, quoi. On peut pas juste superposer les choses.
Et si on pense d'ailleurs, pour revenir au débat sur les allègements, hein, si on se dit, on supprime les allègements au-delà de deux fois le SMIC, ça va toucher des industries, etc., on fait 7 milliards d'économies par an.
Au-delà de SMIC.
Au-delà de SMIC. 7 milliards d'économies par an. Oui, bah, il faudrait mieux utiliser ces 7 milliards.
Dans la recherche fondamentale,
pour
l'innovation.
Soit alléger les impôts de production, soit continuer à investir dans le quantique ou dans l'IA. Ce serait beaucoup plus efficace pour ces industries, ces secteurs, que d'alléger le coût du travail là où ça n'est pas du tout nécessaire pour l'emploi.
Vous voyez l'impact de l'IA? Vous travaillez sur l'impact de l'IA sur le.
Oui, on travaille sur l'impact de l'IA à l'OCDE et les perspectives de l'emploi de l'année prochaine.
On sent des
intégralement dédiées aux effets de l'IA sur les entreprises et sur l'emploi.
Alors, job apocalypse ou pas, Stéphane Carcillo? C'est le sujet qui monte énormément.
Et
bien
justement, on regardera ça
en
très en détail l'année prochaine, à la fois avec des enquêtes auprès d'entreprises et de salariés, mais aussi en allant regarder dans les données administratives pour voir les effets sur l'emploi et les salaires des entreprises qui ont adopté l'IA.
Est-ce qu'on est en ce moment, moi je suis un peu surpris dans les rencontres que je peux faire d'une angoisse qui monte, mais maintenant, parce que les entreprises expérimentent aujourd'hui. ChatGPT a débarqué il y a 3 ans dans nos vies, mais on a l'impression que c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, que l'IA est en train d'entrer dans l'entreprise.
Oui, alors nous, dans les données qu'on a aujourd'hui, y compris sur les jeunes, on n'a pas de preuves de remplacement massif. On voit bien qu'il y a certains secteurs où il se passe des choses, évidemment. On voit bien des métiers complètement changés parce qu'on a des outils numériques dopés par l'IA qui vont remplacer des tâches. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que les personnes n'ont plus d'accès à l'emploi. Leurs tâches vont beaucoup changer. Et c'est vrai qu'on a, dans les pays de l'OCDE, un différentiel de taux de chômage qui augmente pour les jeunes par rapport aux personnes d'âge moyen. Oui. Mais ce différentiel, il augmente depuis avant ChatGPT.
Ah.
Et donc cette tendance d'augmentation du taux de chômage relatif des jeunes, c'est quelque chose qui date pas de l'introduction de l'IA.
L'intelligence artificielle.
Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas de preuves massives de remplacement. Évidemment, on est extrêmement prudent parce qu'on voit bien que tout ça est en train de se mettre en place. Bon. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Mais moi, je pense beaucoup au changement des tâches plus qu'au remplacement.
Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Valérie Plianol, Mathieu Plan et Stéphane Carcillo, pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay. Tout de suite, c'est Tout pour investir, rediffusion avec Antoine Larry-Gaudry. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.